la bibliothèque est en feu. Putain ! C'est le bordel ! Mercredi 6 décembre, 16h. L'air dans le Kajibi était empreint d'une chaleur sale. Affalé sous ma chaise, Maceo, le chien de l'or qu'elle nous avait confié le temps d'un rendez-vous, suffoquait calmement. Épaisse, langue rose et blanc, frémissante, toute sortie. C'était une bête énorme, à la robe flamboyante et aux grands yeux stupides et vagues. Cathy dessinait des fleurs à pétales gigantesques sur la dernière page de son carnet d'adresse. De la cabine adjacente, Roberta glapissait. « Dis donc, vieux cochon, qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que tu ferais avec ma petite culotte ?» Avec sa voix de petite fille dissonante, trop aiguë et faussement indignée, on entendait le type s'échauffer, marmonner des choses incompréhensibles. Dos tourné à la porte, je faisais un mélange sur un magazine ouvert. Comme ça, si Gino entrait à l'improviste, j'avais le temps de refermer le canard et de prendre l'air de rien. L'air de la fille patiente qui attend qu'on se la sonne pour faire son tour de piste. Gino tenait l'entrée de l'Endo, le peep show où je travaillais cet hiver-là. Ex-toxico, il ne ratait pas une occasion de la ramener sur le sujet. « Les drogues douces, c'est vraiment trop con, je vois pas à quoi ça sert, franchement. Comprends pas, ça abrutit à peine, ça fatigue et c'est tout, comprends pas. » Il enchaînait généralement sur un rappel de son parcours d'héroïnomane, nostalgie des vraies drogues, celle toute teintée de romantisme et de gloire. Gino avait le blabla facile, sans être beau parleur. À côté de ça, c'était un gaillard bien bâti, honnête et travailleur. Jamais drôle. Aucun sujet qui ne mérite un froncement de sourcils et une sentence définitive. Pointilleux sur la morale, comme on en trouve beaucoup dans la prostitution. J'en étais à écraser les morceaux de tabac trop gros pour le mélange quand le haut-parleur a réclamé une fille en piste. J'ai tourné la tête vers Cathy, attendu qu'elle lève les yeux de son croquis, puis j'ai montré mon mélange du menton. Ça m'arrange pas trop d'y aller. Elle s'est levée de mauvaise grâce, mais en se hâtant car le client n'attendait pas. Je balayais précautionneusement le mélange avec la paume de la main pour tout balancer sur le collage. J'ai entendu des voix dans l'entrée. « Ciao, ciao, Gino. Tu as vu ce temps dehors? Quel soleil! Ça te réchauffe le bonhomme, ça, non ?» J'ai jeté un coup d'œil à la pendule, pas mécontente que l'heure de la relève arrive sans que je l'aie guettée. Steph a précédé Lola au Kajibi, m'a tancé d'un « bonjour », plein de reproches. Elle n'avait rien à me reprocher, mais c'était son mode d'expression. Les deux filles apparaissaient rarement l'une sans l'autre. Depuis qu'elles travaillaient là, je ne les avais jamais vues se taper sur les nerfs. Elles avaient l'entente sereine et à toute épreuve. La loi des contrastes, ou quelque chose comme ça. Quelques semaines avant qu'elle se fasse embaucher à l'Endo, j'étais passé voir un type qui tenait un pipe show rue Saint-Denis parce qu'on m'avait dit qu'il vendait des rapides. Il était absent, son remplaçant était cordial, très fier de son bordel, il avait insisté. « Tu devrais jeter un œil sur la piste, on vient de tout refaire. Et tu me diras des nouvelles des filles, vas-y !» La nouvelle déco de sa piste était consternante. On se serait cru dans un cabinet de dentiste high-tech. Mais les danseuses étaient bonnes, rien à redire. Steph et Lola m'avaient fait grosse impression et j'avais été vaguement décontenancée de les retrouver à Lyon. Je n'avais fait aucun commentaire parce que Steph était trop antipathique et que ça ne me regardait pas. Le hasard faisait quand même furieusement bien les choses parce que, ce même jour rue Saint-Denis, j'étais allée chercher un café cognac pour le taulier au café d'à côté. Et la serveuse m'avait marqué à cause du sourire défoncé. Deux jours après l'arrivée de Steph et Lola, je la croisais dans Lyon. J'en avais tiré aucune conclusion. Je n'étais pas femme à anticiper les embrouilles. Ce jour-là, Lola avait sa voix rauque très groove de quand elle était bien attaquée. À peine arrivée, elle a brandi une bouteille de Four Roses. Pareil qu'il n'y a personne aujourd'hui. Ça tombe bien, regarde ce que je ramène. Voix nerveuse, sèche et systématiquement réprobatrice de Steph. Gino vient de te prévenir que Roberta était dans la 4. Tu crois pas que tu pourrais parler plus doucement ? Lola, plus doucement mais pas très ennuyée, Mes plus plates excuses, choupette, j'ai encore fait un blackout. Et elle s'est penchée sur moi pour m'embrasser. Ses joues étaient toujours brûlantes. Les deux filles portaient de gros pulls sur des treillis informes. Elles endossaient toujours le même genre de sape paramilitaire dans le civil. Ça donnait à Steph d'inquiétantes allures de colonel et à Lola une touche de gouine dépressive. Elles étaient brillantes pour trouver des fringues de patates. C'était surchauffé à l'intérieur, puisqu'on était tout le temps moitié à poil, et elles se sont immédiatement déshabillées, debout devant leur casier. La porte de celui de Steph était tapissée de photos de Boulmerka, grimaçant juste après la victoire. Tous les jours, elle ramenait l'équipe et l'épluchait consciencieusement. Les rares fois où je l'avais entendu ouvrir sa gueule pour éjecter plus de 3 mots, c'était pour commenter une finale ou une course. Steph était fascinée par la force et l'épreuve. Lola s'intéressait de loin à la chose, mais l'abordait sous un autre angle. Elle avait accroché à la porte de son propre casier des portraits en pied de Sotomayor et de tous les bolis, et parfois les contemplait d'un air songeur. Imagine celui-là. Il arrive, il t'emmène. T'imagines ce qu'il te fait ? Pendant que Steph se préparait, pliant militairement chaque sape de ville qu'elle quittait et dépliant tout aussi rigoureusement chaque sape de travail qu'elle enfilait. Lola, en soutien-gorge et treillis, s'était assise sur la table de maquillage, pieds nus sur le tabouret. Ses pieds n'étaient pas faits. Les ongles étaient longs, jaunes et épais, le talon couvert d'une couche de corne. Des pieds de sauvage. Elle a regardé l'heure, s'est étirée. « On n'est pas pressé, Louise. Je te paye à boire ?» Échange de bons procédés. J'ai accepté son offre en lui tendant le spliff. Bien qu'on se connaisse depuis peu, on était bien partis pour de grands rapprochements. Sans même le chercher, juste en laissant venir. En attendant d'être vraiment de connivence, nous échangions de longs regards aimables. Elle a rempli 2 verres en plastique de whisky, et en tirant trop furieusement sur le bise, elle s'est pris un bout rouge sur le sein gauche, a fait un geste brusque pour s'en débarrasser, et a renversé la bouteille de Four Roses sur la tête de Maceo, le chien de l'or, qui, en se relevant brusquement, fit tomber le sac de Roberta. Elle revenait pile à ce moment de cabine, courroux pleine face. « Merde, mais c'est pas un souk ici, vous pourriez faire gaffe !» Elle a consolé le chien en l'appelant « mon pauvre toutou » avant de se mettre à ramasser ses affaires. Steph, impassible, tirait ses cheveux noirs en arrière histoire d'accentuer le côté austère du personnage. Le petit ampli qui nous reliait à l'entrée crachota. « Cathy va en cabine, fout une fille en piste !» J'ai proposé à Steph d'y aller. Elle a fait non de la tête, puis d'un air passé a jeté « c'est bon, c'est bon ». Sortie tête haute. Elle portait des sandales dorées, un vrai truc de poufias bien excitant. Jupe blanche moulante et petite culotte blanche également. Elle avait un cul de classe exceptionnel. La cambrure de son dos le mettait bien en valeur. Il était rond et ferme, à rebondir contre. Soutien-gorge blanc à balconnet, les nichons comme sur un plateau. Bandante du recto au verso. Avec ce qu'elle trimbalait, elle pouvait bien se permettre de manquer d'amabilité. J'ai tendu l'ouinge à Roberta qui a détourné la tête, l'air agacé en soufflant. J'en avale bien assez avec ce que vous recrachez. Lola et moi avons échangé un regard bref et attristé. Cathy est arrivée, sa robe à la main, le corps couvert de sueur, passée au sauna des projecteurs. Silhouette de petite fille, seins timides, hanches étroites et taille droite, la fente rasée de près pour mieux faire illusion. Elle a bu un verre d'eau et s'est regardée dans le miroir, a remis du rouge. Et le haut-parleur a annoncé « Il t'attend en cabine numéro 2 ». Elle est ressortie sans dire un mot. Elle avait l'air crevée. Assise au bord de la douche pour prendre moins de place, Lola ôtait son fut. Sur sa jambe gauche, des cafards tatoués grimpaient le long de sa cheville jusqu'à l'entrecuisse. 6 ou 7 bestioles l'enlaçant, en fil noir délicatement ciselé. Assez jolie, un rien glauque. Déconcertant en tout cas. Les jours de grand spleen qu'elle avait réguliers, elle causait aux petites bêtes noires, en redessinait pensivement le contour du bout du doigt. « Petite misère, tu me fais souffrir. Vous me venez au ventre, mamma mia. Comme ça fait mal dedans, petite misère. Sois gentille avec moi, laisse-moi un peu tranquille. » Roberta lui a braillé dessus. « Dégage de là, faut que je prenne ma douche, j'ai hâte de sortir, moi. » Lola réveillait l'instinct maternel au sens fasciste du terme chez d'autres filles. Comme elle n'était jamais agressive et qu'elle avait toujours l'air en vadrouille interne, pas mal de gens lui parlaient comme à une demeurée, ne perdaient pas une occasion de la houspiller. Après avoir enfilé le bas de son costume, elle a sifflé son verre d'un trait, attrapé la bouteille et m'a fait signe de vider le mien fissa pour qu'elle remette la sienne. J'ai obtempéré, vidé cul-sec le second verre et quitté le cagibi pour la laisser se préparer tranquille. Voilà, c'était l'ouverture de Les Chiennes Savantes, le deuxième roman de Virginie Despentes, qu'on vient d'entendre. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va aller écouter aux portes des bordels ce que celles qui y ont travaillé à différentes époques, dans différentes conditions, ont à nous raconter. Donc aujourd'hui, on va écouter exclusivement une littérature de femmes qui sont des écrivaines et qui sont des prostituées. On va écouter trois écrivaines qui ont toutes été travailleuses du sexe à deux époques, dans trois endroits différents. Et pour les trois romans qui vont nous préoccuper aujourd'hui, trois formes de littérature qui tournent autour du témoignage. Mais c'est important, c'est pas que du témoignage, c'est pas une littérature voyeuriste ou de documentaire, c'est de la littérature. Donc là, l'ouvrage, c'est un roman de 1995. C'est donc le deuxième roman de Virginie Despentes. Ça se passe dans un peep show. On va écouter tout de suite Stéréo Total. Et puis, dans la foulée, on écoute un extrait de Griselidis Réal. Et ensuite, on parle de tout ça.
La grande maison rouge. Je traîne mes valises sur l'avenue. Le grand immeuble rouge m'attend. Des troupeaux d'hommes montent la garde sur le trottoir, les yeux rivés sur la façade aux 100 fenêtres. Et ci et là, furtive, une silhouette de femme en chemise de nuit passe derrière les rideaux. Du linge claque au vent sur des ficelles. Des visages nous regardent, collés aux fenêtres. La porte d'entrée est fendue. Elle n'a plus de poignée ni de serrure. Les quelques marches qui y conduisent sont cassées et souillées de mégots nageant dans des flaques jaunes. 4 étages. L'escalier intérieur est étroit, encombré d'Allemands et de soldats noirs qui montent et descendent en sonnant aux portes. Sur chaque palier, 3 portes de bois pisseux crevassées par des coups de pied. À chaque porte, une sonnette surmontée d'une quantité de prénoms écrits à la main sur des rectangles de papier ou de carton. Je lis en passant. Hélène, Mina, Melita, Elga, Rosemary, Charlotte. Les portes ouvrent sur des vestibules sombres aux tapisseries déchirées sur lesquelles donnent des chambres. Au fond, il y a des toilettes, minuscules, alvéoles puantes, la cuvette est toujours bouchée et l'urine coule sous la porte. À côté, la salle de bain luisante de crasse, sans eau chaude, à la baignoire encombrée de seaux où trempent des serviettes dans une âcre odeur d'eau de Javel. Personne ne s'y baigne jamais. Au-dessus du lavabo branlant sont fixés les restes d'un miroir. Parmi les taches de rouille et les brisures, le visage apparaît déformé comme s'il sortait d'un autre monde. Pendant que je déballe mes valises, la porte en face de la mienne s'est ouverte. La grosse Hélène, dite Big Mama Shakespeare, sort dans le vestibule, dans sa combinaison trouée sous une vieille gabardine beige, sa figure poupine encore gonflée de sommeil, encadrée de tire-bouchons en cheveux jaunes. Elle me salue très poliment. On échange quelques mots. Elle, c'est une Russe blanche de 50 ans passés, venue de la campagne et des steppes, il y a très longtemps. Elle a été mariée à un Allemand. Sa fille est en Amérique. On l'a surnommée Big Mama Shakespeare parce qu'elle possède un volume de théâtre anglais aligné sur une planchette avec des romans policiers. Sa chambre est plus petite que la mienne. C'est la moins chère de l'étage. Elle peut à peine s'y tenir debout dans un étroit espace entre le lit et le mur. Il n'y a de place ni pour le réchaud à gaz ni pour son armoire, qui ont émigré au vestibule. Elle n'a qu'un unique meuble, un vieux carton à chaussures coquettement recouvert d'une étoffe à fleurs où elle met sa vaisselle. Dessus, elle a posé la photo de sa fille entre 2 bouquets de roses artificielles et une petite poupée en celluloïde à la jupe de plumes. Au mur, des cartes postales d'Amérique en couleur. Pieds nus, une cuvette à la main, elle va chercher de l'eau à la salle de bain et retourne dans sa chambre. Comme elle m'a prise en amitié, elle m'explique qu'il faut se désinfecter à l'eau de Javel. C'est plus sûr. Je dis oui pour lui faire plaisir. Elle doit avoir un vagin de jument. Moi, en tout cas, je ne m'y risquerai pas. D'une monumentale marmite qu'elle a mise à bouillir sur le réchaud à côté de sa porte, s'échappe une acide vapeur de choucroute où baignent des pieds de cochon. C'est son plat préféré. Elle se fait aussi une salade verte nageant dans du lait aigre à la russe. Elle mange dans le corridor sur une petite table recouverte d'une nappe à carreaux bleus et blancs et se verse de grands verres de vodka ou de bière. D'une chambre contiguë émerge Melita dans un peignoir rose, enceinte, les cheveux brûlés par les permanentes, une grande bouche comme un camélia sanglant dans un visage de craie. Elle a 4 gosses qui sont placés à la campagne. Et son mari est au pénitencier. Par sa porte ouverte sort une musique de valse viennoise mêlée au pépiement de ses canaries. L'enfant qu'elle attend, c'est celui de son ami Jimmy, un petit noirot frisé aux fesses bien moulées dans un pantalon aux plis impeccables, toujours la cigarette aux lèvres. Il joue aux cartes pendant des heures sur la table au vestibule et ne lève même pas la tête quand passent les soldats en caleçon qui se rendent aux toilettes. Le soir, il sort un moment pour que Melita soit tranquille. Elle l'accompagne sur le palier et ramène aussitôt un soldat qu'elle fait prestement disparaître dans sa chambre. Elle ne prend que des blancs, les noirs Jimmy ne lui permet pas. Au fond du couloir, il y a Elga, enceinte elle aussi. Son ami a perdu tout leur argent au casino. Elle reste seule, lui il est en prison pour dette. Elle m'a montré un jour sa photo. Un visage carré, un menton de gangster, les yeux de minoteur. Elga est blonde, avec des yeux bleus, une fossette rieuse au menton, bien qu'elle ait toujours l'air d'avoir pleuré en cachette. À côté de moi habite Maria, une petite Yougoslave aux yeux verts, à la poitrine menue, aux chignons d'écolière serrés sur la nuque. Elle s'est sauvée de son pays avec un gosse. Il rit sur la commode en photo. Horst, le fiancé allemand qu'elle a rencontré un soir, à qui elle a demandé 100 marks qu'elle lui a rendues après parce qu'elle est tombée amoureuse, joue de la batterie dans un orchestre de jazz. Elle ne peut pas faire grand-chose car son fiancé la surveille. Le matin, très tôt, sous prétexte d'aller faire des commissions, elle va dans les petits bistrots près de la gare où les voyageurs de commerce viennent boire leur café. Et elle en prend un ou deux, pas plus, dans une pension qu'elle connaît. C'est elle qui me l'a raconté un soir où Horst était à son travail. Mais dans la dernière chambre, à la droite de l'entrée, à côté de l'armoire d'Hélène, se terre Anne-Marie, une malade. Ce soir, c'est Payday, le jour de paye de l'armée américaine. Toute la nuit, la maison résonne de pas des soldats. Ça gueule, ça trépine, ça chante du haut en bas. Personne ne dort. Des grappes de noir obstruent les portes des paliers, les pieds dans un lac d'urine accroché aux sonnettes. Une odeur de fauve remplit le couloir. Le long de la montée, les fenêtres aux vitres cassées s'ouvrent comme des bouches béantes. Les bouteilles vides lancées depuis le quatrième s'écrasent au rez-de-chaussée dans une flaque innommable où nagent des fleurs, des mégots, des journaux. On patauge, on s'agrippe à la rampe pour faire passer des troupeaux de nègres en uniforme qui montent. Toute la nuit, il y a des bagarres, des hurlements, des bruits de chute, des coups. Deux flics en civil montent la garde au rez-de-chaussée, appuyés sur un mur. Quand ils en ont marre de rester debout, ils s'assoient sur l'escalier. Dans certaines chambres, on reçoit des noirs, dans d'autres, des blancs. Les soldats en caleçon font la navette entre le cabinet et le lavabo de la salle de bain, une serviette à la main. En se croisant dans le corridor, ils se disent « hello » sans aucune gêne. Il y a aussi quelques Allemands, mais comme le dit Hélène, les soirs de paye, ils ont la trouille, alors ils préfèrent venir l'après-midi ou le reste du mois quand les soldats sont fauchés. Pendant des heures, la baraque a tremblé, hurlé, ébranlé par les claquements des portes, les jurons en allemand et en anglais, les cris hystériques des filles. Le bruit est si fort qu'on n'entend même plus la musique des pick-up et des télévisions qui marchent à toute volée. Tout transpire d'une chambre à l'autre. Le vieux juif qui possède la maison a fait construire de misérables parois de carton pour gagner de la place et doubler le nombre de chambres. Les meubles bon marché rescapés des casernes américaines s'écroulent au moindre souffle, se fendent, perdent leurs pieds. À 6h du matin, après une accalmie, arrive une nouvelle vague de cris et de coups de pied dans les portes. Ce sont les Halbstarken, de jeunes blousons noirs allemands qui ont bu toute la nuit. Ils n'ont plus d'argent et veulent à toute force se faire rouvrir. Personne ne bouge dans les vestibules morts. Les chambres restent fermées. Les Allemands tirent des coups de pistolet à blanc et flanquent des coups de bottes à défoncer les murs. Les portes se fendent. Elles tiennent jusqu'à l'arrivée des flics. Il y a encore, après leur départ, une dernière volée de coups de sonnette à faire sauter nos tympans. Des coups frappés sur les portes. La MP, la Military Police américaine, fait sa tournée pour récupérer les soldats restés endormis. On entend gueuler la phrase rituelle dans les couloirs. « Any soldiers here ?» Puis tout s'apaise. Il est 7h du matin. Les oiseaux chantent sur les arbres de l'avenue. Le premier tramway passe dans un grincement de ferraille, les concierges sortent des poubelles à grand fracas sur le trottoir. On va enfin pouvoir dormir. Toute la matinée jusqu'à tard dans l'après-midi, la maison fait silence, écrasée de sommeil. À peine un peu plus écaillée, lézardée, elle perd ses loquets, ses briques, l'escalier s'effrite, mais elle tient bon, amarrée au trottoir comme un vieux cargo. Thank you.
On a entendu des extraits qui nous ont fait rentrer dans les maisons. Plusieurs maisons, plusieurs époques. Le dernier extrait, c'était le chapitre « La grande maison rouge dans Le noir est une couleur ». Le roman un petit peu phare de Griselidis Réal, qui aura commis d'autres œuvres plus tard. Le noir est une couleur, c'est quand même son ouvrage romancé le plus important, qui raconte notamment sa fuite de Suisse avec son amant noir, Bill, qu'elle échappe d'un hôpital psychiatrique en embarquant ses enfants qui étaient placés par des assistantes sociales, et elle arrive sans papier, illégale, en Allemagne, où elle se prostitue. Le noir est une couleur, c'est l'histoire de ça. C'est l'histoire de cette fuite, cette échappée que fait Griselidis Réal, et la manière qu'elle a de se sauver et de pouvoir s'occuper de ses enfants, en tout cas de pouvoir gagner de l'argent, c'est notamment de se prostituer. On est rentré dans les maisons parce que Réal, elle officie, elle travaille de différentes manières, mais entre autres, l'intérieur des maisons chez elle, là c'est ce bordel illégal de Munich. Et à ce moment-là, il faut entendre illégal comme les filles ne sont pas michetonnées. Chez Despentes, c'est ce peep show dont on a entendu un petit peu l'ambiance dans ce chapitre d'ouverture. J'aime bien ces chapitres parce que c'est des présentations aussi des camarades, des femmes, de ce qui existe un petit peu entre elles et à l'intérieur. Ce peep show chez Despentes, il est dirigé par l'Orga, qui est une sorte de mafia moderne très sulfureuse de Lyon. Et ces différents romans, on entendra le troisième un petit peu plus tard, nous donnent envie de parler des conditions de prostitution, mais ils le font très bien eux-mêmes. Donc nous, on va essayer de parler davantage de l'écriture en soi et de ce qu'elle nous raconte un petit peu. Notamment pour sortir de ce piège, en l'occurrence chez les travailleuses du sexe, de ce piège de ne s'attacher que aux témoignages. Donc chez Despentes, les Chiennes savantes, c'est un polar où l'univers du sexe tient lieu de décor. Et pour les différentes protagonistes, et notamment notre héroïne Louise, ça tient lieu de conditions de vie et de mort parce qu'on est dans un polar et que c'est assez chaud. Chez Despentes, dans ce roman, dans les suivants aussi, on est évidemment en droit, je suis en droit, il faut que j'arrête de dire « on ». De se demander si les ressorts de la fiction servent une vision politique, féministe, de la prostitution. Et en l'espèce, l'utilisation du polar, ça nous fait penser, et c'est une petite référence au passage, à un film, In the Cut, de Jane Campion, qui est aussi un polar servi par une héroïne qui gagne à la fin. L'utilisation du polar en tant que support pour faire passer des positions politiques, c'est assez important dans les productions féministes. Donc, en l'espèce, dans Les Chiennes Savantes, il y a des meurtres. On découvre une organisation verticale du commerce du sexe, donc une forme plus moderne, mais qui reste assez, assez ouvrière, quoi, prolétaire dans son organisation. Et puis un homme très mystérieux, qui les rend toutes folles, dont on découvre qu'il a un passif avec beaucoup d'entre elles, à tous les échelons un petit peu de l'organisation verticale de l'Orga, donc la boîte quoi, qui fait tourner le commerce du sexe à Lyon et dont dépend Louise, notre héroïne. Et cet homme très mystérieux est à la base de toutes les embrouilles. Je vous raconte pas tout. Le point commun chez Despentes, chez Réal, c'est une écriture qui est très crue, mais très poétique, et où les images révèlent énormément de l'émotion des filles, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un accès à l'émotion ou à la perception via des narratrices, donc des narratrices, un narrateur interne, mais par les images et notamment par la description, on a accès à énormément des émotions qui traversent. Ça, en soi, pour moi, c'est des marques aussi d'écriture féministe et d'un attachement à ce qui est ressenti par les narratrices. Donc, une écriture poétique pour parler du sexe, pour parler du désir chez ces narratrices. Et ça, c'est assez révolutionnaire. Et ça sort du témoignage, précisément. L'autre point commun, même si on ne cherche pas forcément que des points communs, mais l'autre point commun, c'est un culte de la bite. Chez Griselie d'Israël, c'est flagrant. L'ouverture de « Le noir est une couleur » se fait quasiment sur la description de la verge de son amant. Et de manière générale, la verge de ses amants est l'objet d'un culte et d'une fascination assez grande. On a des images, pour le coup, assez romantiques, des orchidées, des lys noirs en éclosion. Chez Despentes, ça se fabrique de manière un petit peu différente. Par un ressort que je juge un petit peu gros, et là on parle pas de verge, notre narratrice, elle est vierge de toute pénétration par une bite, donc en tout cas vierge de rapport pénétrant, hétéro, et c'est un état de fait qui la préoccupe et qui est réglé au sein du récit par un viol. Puis, la narratrice de Des chiennes savantes semble perdre, au cours de la fiction, une part de son libre arbitre parce qu'elle est guidée à un moment donné et un peu surpassée par le plaisir qu'elle trouve et par la maîtrise dont elle est l'objet chez son amant violeur. Chez Griselie d'Israël, on a un peu la même tension dès le début du roman parce qu'elle s'enfuit avec son amant Bill, dont elle est éperdument amoureuse et pour qui elle ressent des sentiments proches de l'idolâtrie. Et son amant avec qui elle s'enfuit, il la bat, en même temps il la comble, parfois il la protège, beaucoup il la déçoit. En tout cas, chez les deux écrivaines, chez Réal et chez Despentes, on a cette ambiguïté et ce paradoxe non résolu de l'hétérosexualité. Qui est montré, qui est raconté, qui n'est pas tellement interrogé, mais tant mieux, ça nous laisse à nous, lectrices, lecteurs, le soin de s'y pencher, et qui est montré en plein, avec sa cruauté, avec une écriture crue. Peut-être la différence entre les deux, c'est que chez Griselie d'Israël, on a affaire à un personnage... Une narratrice, c'est elle, hein, c'est un roman très autobiographique. Un personnage qui est très romantique, qui est très passionnée, qui est très amoureuse, en général, de beaucoup de choses. Chez Despentes, on a plutôt une version ultra-moderne, assez cynique, assez désespérée, de la pute et de la travailleuse en général. Il y a cette phrase que j'ai pas relevée in extenso dans Les chiennes savantes, mais... où Louise répond à une de ses collègues en disant « Ce qui est dégueulasse, c'est pas de faire le métier qu'on fait, c'est de travailler. » Voilà. En tout cas, chez les deux, on boit beaucoup, on fume beaucoup et on jouit parfois.
Yeah.
On n'est pas dans une émission musicale, mais je vous dis quand même un tout petit mot sur ce qu'on vient d'entendre. C'est un titre qui s'appelle Butch in the Streets de Tribe 8. Vous pouvez aller chercher un petit peu davantage sur ce groupe. Je l'ai choisi notamment parce que il y a une artiste qui en fait partie qui s'appelle Lynn Breedlove, qui apparaît dans un documentaire de Virginie Despentes sur notamment le punk et qui s'appelle Mutante. Donc vous pouvez aller faire un petit tour par là. C'est un groupe féministe, c'est un groupe qui parle de lesbianisme, qui parle des meufs, de sexe. Voilà, vous pouvez aller y faire un petit tour. Je vais vous présenter un petit peu plus précisément Le noir est une couleur. On en a parlé dans l'écriture. Dans la situation d'écriture, c'est un ouvrage de 1974, c'est-à-dire la même époque que le roman suivant, dont on va lire un extrait juste après. Et comme le roman suivant, c'est un ouvrage autobiographique. Je voulais dire un petit mot sur Griselli d'Israël, ce qui me permettra de parler de Jeanne Cordelier, l'écrivaine du prochain roman. Griselli d'Israël, elle est aussi très connue parce qu'elle a fondé De Retour à Genève et quand elle a repris le travail de prostitution, une association qui s'appelle Aspasie, qui était une association de revendication au départ et du travail du sexe. Donc tenue par des travailleurs-travailleuses sociales, mais tenue aussi par des travailleurs-travailleuses du sexe. En Suisse, et elle a surtout monté un énorme fonds de documentation sur le travail du sexe. Ça a été un épisode un peu conflictuel aussi, parce que Aspasie a assez vite été co-présidée, en tout cas occupée aussi par d'autres membres qui étaient plus sur une vision de protection, et non pas de revendication, mais plutôt de considérer le travail du sexe comme un état social dont il serait bon de s'échapper le plus vite possible. On pourrait penser à la même chose des ouvriers, ouvrières, travailleurs intérimaires, etc. Et c'était plutôt la position de Griselli d'Israël qui revendiquait son travail plutôt en tant que travail social, travail humaniste. Ça, c'était un petit peu ses termes. Donc, Griselli, elle est partie d'Aspasie. Elle a fondé une autre association, Astarté, pour finalement revenir. En tout cas, c'est pour dire que cette femme, elle représente encore aujourd'hui, sans doute pour beaucoup de travailleurs du sexe, une figure de la revendication de ce travail et de la possibilité de l'exercer dans des conditions choisies, avec éventuellement la dureté ou la fatigue liée à ce travail, comme n'importe quel travail. Je pense que Despentes est plutôt dans cet héritage-là. Je le nomme, il y a une association à Toulouse de travailleuses-travailleurs du sexe, réduction des risques, qui a pris le nom de Griselli Dis. Voilà, sur le roman, sur les conditions d'écriture pour Le noir est une couleur. Pardon, je vais m'arrêter là et je vais vous présenter assez rapidement le prochain roman. Il s'appelle La Dérobade. C'est un roman de 1976 et c'est un premier roman d'une travailleuse du sexe qui, je pense, ne se serait pas donné cette étiquette-là à ce moment-là. Plutôt pour elle, une prostituée, plutôt contrainte, qui a travaillé 6 ans en tant que prostituée et qui, comme son roman veut le raconter, a réussi à se dérober, à s'échapper de cette condition. Je vous en dis un petit peu plus sur les conditions d'écriture, sur le roman, sur la position aussi de Jeanne Cordelier par rapport à son roman témoignage après cette petite musique. Allez, montez là-dessus. Enlevez votre culotte.
Quoi, ma culotte? Oui, ma culotte. Non, ma culotte. Je n'importe pas quand je travaille. Les filles trouvent que c'est anti-hygiénique, mais moi, je considère que c'est pratique. Et puis, cela n'est pas encore un délit. Bon, j'y suis.
C'est ça, pliez davantage les jambes. Écartez. Allons, écartez.
Elle en profite pour toucher l'intérieur de ma cuisse en brandissant son bec de canard non lubrifié. C'est froid et ça fait mal. La petite lueur qui brille derrière ses carreaux me dit qu'elle attend que je renode pour m'envoyer d'un ton satisfait que j'en ai vu d'autres ou pire encore. Donc je serre les mâchoires, ouvre mon ventre dans lequel elle introduit une sorte de longue aiguille plate, fouineuse va. À présent, heureuse, elle balade l'aiguille sur une petite plaquette de verre. Je me détends, trop vite. Elle en redemande.
Écartée.
Je la soupçonne d'être gousse sur les bords, tout en maudissant l'instant où j'ai bouffé mon papier de prélèvement, preuve irréfutable quand on veut se faire passer pour novice. Rebadigeonnage sur la plaquette, je n'ose plus bouger.
Terminé, mon petit, vous pouvez descendre.
Je saute de mon chameau. Où sont les autres? Elles sont dans le couloir, sur les bancs, les mêmes. Tout ce qui appartient à l'administration est semblable, laid, triste et impersonnel. Elles sont défigurées, les copines. Je dois l'être aussi. Alors Sophie, c'est vrai que t'es partie dans les vapes? Valérie nous a dit ça. J'exhibe mon bras troué. C'est impressionnant. Il y a du sang caillé qui a dégouliné jusqu'à mon poignet. Malgré ma fatigue, je me sens bien tout d'un coup. J'ai réussi à passer de l'eau de Cologne au travers, dit Sylviane. Je l'avais planquée dans ma gaine. Viens aux chiottes avec moi. Je m'apprête à la suivre quand une petite cloche ding-ding dans ma tête. Mon regard nettoie les bancs. Il manque quelqu'un d'important. Où est France? Où est-elle? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Ai-je crié. Suis-je en train de me vider de mon sang qu'elle me dévisage ainsi? La zone est accrochée au quartier des mineurs. Ça risque d'être difficile pour elle. Le juge pour enfants, tout le bordel, quoi. Surtout que c'est une récidive. Elle a demandé que t'ailles la visiter. Elle ne veut personne d'autre. Elle a ajouté que tu savais où joindre, que tu le fasses en sortant sans oublier la filoche. France, j'avais oublié, pauvre France. Je devais lui passer mes faffes. J'aurais peut-être réussi à la convaincre. Au lieu de ça, je me suis laissée endormir en écoutant les conneries des autres.
Maintenant, viens, faut nettoyer ça. Et arrête de miter, ça n'arrange rien. Tu sais, il y a des chances que ça te laisse une cicatrice. Je t'y aurais retourné ma main dans la gueule, tiens. À l'écouter, je la crois parfaitement capable d'une telle réaction. Sylviane a 30 ans. Elle me dépasse tranquillement de deux têtes. Sa silhouette est imposante. Son visage, qu'elle a pris soin de démaquiller hier soir dans la cage, paraît paisible et est surtout moins défraîchi que le mien. Et pourtant, je suis sa cadette de 9 ans. 13 années insoupçonnables de business sur les reins. J'ai été éblouie par le personnage. Elle a de la classe, comme disent les autres. C'est une demoiselle d'eux, originaire de la haute bourgeoisie napolitaine. Quand, à 19 ans, elle a rencontré Gilbert sur la plage d'Amalfi, elle l'a pris pour un aristo. Hélas, il n'avait de bleu que les yeux. Mac patenté, goinfre, il a remplacé le sentiment par des billets de 10 sacs, moins encombrants et tellement plus lucratifs. Il est à la tête de plusieurs entreprises et sérieusement secondé. Sylviane, pute, mère et femme d'affaires, affronte sans broncher les intempéries. Lui demander pourquoi elle ne songe pas à se retirer, c'est inutile. Elle répond, la bouche gonflée de suffisance, qu'elle n'a nulle envie de s'encrouter entre les quatre murs de l'avenue Raymond Poincaré. Les autres ont eu vite fait de me mettre au parfum. Au bout de quelques jours, j'étais amplement renseignée sur la vie de chacune, sur celle de Sylviane. Derrière cette belle désinvolture, se profile un quinquagénaire despotique, un vieux micheton qui semble avoir des droits sur elle et pour qui l'italienne ouvre largement le lit conjugal. Ainsi, Gilbert se trouve contraint de rester quelques heures à méditer dans l'armoire, au milieu des toilettes de sa chère moitié. D'ordinaire, y penser me ferait sourire. À présent, je la regarde, cette grande fille penchée sur moi avec des gestes de mère. J'ai envie de me blottir contre elle, de lui crier mon désespoir, de lui demander pourquoi, finalement, elle refuse si farouchement d'abdiquer. Mais une fois de plus, le temps me devance. La voilà qui rejette en arrière ses cheveux roux, son regard redevient lointain. Te v'là propre. On y va. Nous y allons. Notre absence, si brève fut-elle, a permis aux copines d'émulsionner leur matière grise. Ça cogite dur sous les perruques. Je dirais même qu'il flotte un certain vent de révolte. Muriel arpente les lieux, faisant sauter deux petites clés blanches au creux de sa main. Elle a l'air grave et décidée. Les autres suivent. À présent, il s'agit d'être d'accord sur le thème. Puisqu'ils ont été assez naves pour laisser les clés sur les portes, à nous de jouer. Ils doivent avoir les doubles. Ça fait rien, on va boucher les serrures. Qui sait qu'il y a des chewing-gums ? Mumu récolte deux tablettes en faisant la moue. Et si nous mâchions du papier ? Résultat surprenant. Nos quenottes acérées valent 10 massicots en action. Les trous sont bouchés. On en rajoute même sous les portes, dans les fentes. Nous regrettons presque qu'il n'y ait pas d'autres lourdes. Claudie, qui a toujours un métro de retard, tente une boulette appliquée, ronde et propre. Mumu la regarde dédaigneusement. Michel, passe-moi une de tes pompes, c'est toi qui as les plus hauts talons. Jojote, envoie ton foulard. C'est Kim qui parle. Elle est décidée à se faire la malle. Elle s'active maintenant avec la patience de sa race. La chaussure se trouve minutieusement enveloppée dans l'étoffe. Elle scrute de ses yeux en demi-lune l'endroit de la fenêtre où elle va frapper. Elle frappe, frappe, frappe encore, tandis que nous chantons, tapons, pieds et mains, pas trop fort, suffisamment pour la couvrir. Vitre éclatée. Charmant bruit de liberté. À toi, Sylviane, vite !
Elle a le dos large, notre Italienne. À quatre pattes sur le banc, elle encaisse la charge sans grimacer. Kim s'envole, oiseau ivre. Son sac et ses chaussures la rejoignent en même temps. Je me suis portée volontaire pour cette besogne qui m'excite. Je sauterai la dernière. À toi, Jojo, relève ta robe, tu vas te casser les dents. Mène-toi, merde, je me défonce les abatis. Non, j'y vais pas. Saper comme ça, j'aurais pas fait 2 mètres qu'on va me rechoper. T'es conne, enfin, saute, saute donc! Elle saute mal, Josiane. Un cri aigu nous crève les tympans. Je lâche son sac et ses chaussures. En moins d'une minute, je me rends compte du désastre. Sylviane halète, ses reins plient. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que Josiane s'est écrasée 2 mètres plus bas et qu'elle se tient la patte à 2 mains. Je ne vois pas son visage, mais il doit être douloureux. Je n'aperçois que sa tête blonde qui balotte au rythme saccadé de ses larmes. Elle ne relève pas son visage vers nous, elle ne réclame aucun secours. Son cri, elle le regrette déjà. Elle l'enfonce dans sa gorge en attendant que les autres sautent et s'éloignent. Se faire la malle ne la concerne plus. C'était une idée agréable qui lui aurait permis de rentrer chez elle, de se tremper dans un bain chaud. Pas de manger, non. De dormir tout de suite après. Dormir, oh, dormir. Elle en parlait depuis la veille. Retrouver simplement son lit, ses draps frais, étendre bras et jambes, le visage couvert de crème. Elle peut le faire puisqu'elle dort seule. Puisque son homme tire 10 piges à Melun. Au lieu de ça, elle est couchée par terre dans la cour cimentée de Saint-Lazare, pieds nus, sans papier. Je n'ai plus le courage de sauter, ni pour l'aider, ni pour fuir, je n'ai plus le courage de rien, sinon de descendre. Elle doit être amochée. Qu'est-ce qu'on fait ? Faut prévenir, faut pas la laisser comme ça. Elle s'est peut-être cassée la jambe. Merde ! Moi, je voulais me tirer. Et moi donc, et elle alors, et la zone, tu crois qu'elle n'en aurait pas aimé partir ? À présent, il ne s'agit pas de s'endormir sur nos lauriers. Si Joe a la jambe cassée, autant faire vite. L'esprit de solidarité, ça exige chez les filles. C'est moi qui vous en parle. Nous sommes vite sur jambes en cas de malheur. Quitte à nous en faire le reproche plus tard. Ce qui, en principe, ne manque pas. Nous voilà en train de nous activer comme des brutes, débouchant, débloquant à l'aide d'épingles à cheveux, déculpabilisés à mort. C'est vrai que nous l'avons tout encouragé. Allez, sois pas conne, saute !
Merde. C'était les filles de la dérobade, les putes qui se sont fait attraper par la mondaine et qui vont se faire encarter, qui sont emprisonnées à Saint-Lazare et qui essayent de s'évader. On est dans le roman autobiographique Témoignage de Jeanne Cordelier. C'est une langue incroyable, vous l'avez entendu, très vive, truffée d'images, truffée d'argot, truffée d'incises, qui va à toute allure. C'est magnifique. De choisir ce livre au début m'a posé question, parce que c'est un livre qui est préfacé dès la première édition en 1976 par Benoît de Groux, qui est insupportable, et qui en profite pour servir un bon gros discours abolitionniste. Donc le discours abolitionniste, c'est celui qui dit que la prostitution est un mal social qu'il s'agit d'éradiquer le plus vite possible et que les prostituées, de base, sont des victimes. Ça m'a posé question et en même temps, au contraire de ce que nous raconte Benoît de Groux, la dérobade, c'est aussi le récit d'une femme qui se bat coûte que coûte, qui est très forte, qui trouve des solidarités, qui retombe, qui est fatiguée, qui va aussi expérimenter à peu près toutes les formes de prostitution de cette époque, donc en maison, en bordel, en tant que barmaid montante, dans la rue, dans des maisons d'abattage, dans les quartiers immigrés, où elle enchaîne jusqu'à 40 passes par jour. Jusqu'à se dérober, comme elle le dit. Pour moi, c'est pas un personnage victimaire, et ça m'interrogeait de me dire, même si ce roman a été utilisé par notamment des penseuses abolitionnistes, comment on peut attraper un récit littéraire et l'extraire de l'utilisation idéologique dont il a fait l'objet. Ce qui était intéressant pour moi aussi, c'est que c'est un livre qui a marqué très très fort son époque. C'est un mouvement de grand entrain féministe et il y a des collections entières chez des maisons d'édition, notamment cette collection qui s'appelait La Rouquine, où s'accumulent des témoignages alors de prostituées, je sais pas, d'ouvrières, du textile, de que sais-je. La différence, c'est que La Dérobade, c'est un roman et c'est une écriture magnifique. À l'époque de sa sortie, de sa première édition, ça recueille un énorme succès. Et c'était important pour moi de pouvoir faire entendre ce qui a été parmi les premiers récits littéraires assez marquants du travail du sexe, quoi. Moi, la fauvette, j'ai raté mon envol, et même si mes ailes m'avaient portée jusqu'au Japon, on serait venu m'en chasser, et je n'aurais jamais eu assez de ma vie d'oiseau pour payer ce manque. Il y a un discours fatal de la fatalité, de l'inexorable chez Jeanne Cordelier, qui est encore une fois pour moi, et pas un discours victimaire, mais qui est plutôt comme le poids social sur ses épaules. Et en effet, ce qui était intéressant pour moi aussi de pouvoir vous parler de ce livre, La Dérobade, c'est que c'est un parcours assez hors du commun d'écrivaine. C'est-à-dire que Jeanne Cordelier, c'est une fille d'ouvrier de la banlieue qui ne va pas au-delà du certificat d'études, qui, comme son bouquin le raconte, a un peu les yeux qui brillent en croisant Gégé, qui va devenir son Mac, qui traverse sa banlieue dans des grosses bagnoles. C'est un parcours d'écrivaine parce qu'il y a une épopée éditoriale dans la dérobade. C'est-à-dire que la première fois où elle va soumettre son manuscrit, son éditeur lui demande, pour reprendre le manuscrit, de s'associer à une femme en l'occurrence, en tout cas à quelqu'un, qui... Ensuite, ça a été quelque chose, ce « et », comme elle dit, cette conjonction de coordination. Donc cette personne qui l'a aidée à reprendre son manuscrit, il a été imposé par son éditeur à Jeanne Cordelier que le nom apparaisse à côté du sien dans les premières éditions. Et ça a été utilisé comme un argument pour dire, en fait, cette femme qui est fille d'ouvrier, qui est prostituée, c'est pas possible que ce soit elle qui nous serve un roman aussi bien écrit, dans une langue aussi nouvelle, que ça soit au niveau de la syntaxe ou au niveau du vocabulaire. Et ça a été d'une violence terrible. Enfin, à l'époque, en 76, il y a des critiques littéraires pour dire... c'est à l'évidence le livre d'un professionnel écrit pour une professionnelle dont le métier n'était pas d'écrire. Trop bien fait et refait pour que le lecteur finalement ne se sente pas refait. Pour tout dire, et quelles que soient ses incontestables qualités, La Dérobade est un livre putain. Jeanne Cordelier, elle s'est fait voler son travail et son travail d'écrivaine. Et comme elle le dit dans la postface de la troisième édition de La Dérobade, je me suis accrochée à la promesse que je m'étais faite que la société hypocrite, qui m'avait niée, bannie, foulée aux pieds, remisée au banc des réprouvés tout en m'utilisant, j'allais la souffleter avec ma prose. Voilà, on va s'arrêter là, j'aurais beaucoup à vous dire encore sur l'écriture de Jeanne Cordelier. En tout cas, elle ne s'est pas laissée faire. Elle a écrit beaucoup de livres après. Si on ne s'arrête pas tout de suite aux horribles préfaces de Benoît de Groulx, on découvre une écrivaine très importante. On était au bordel aujourd'hui. On va écouter maintenant « On the Sunny Side of the Street », la version de Billie Holiday. La Dérobade de Jeanne Cordelier se termine sur une note optimiste. Elle nous dit, après avoir traversé toutes ces épreuves, « J'ai traversé la rue et finalement j'ai choisi de marcher du côté où il y avait le soleil. »
Your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street.
Soyez prévenus, vieillards. Soyez prévenus, chef de famille. Le temps où vous donniez vos fils à la patrie comme on donne le pain aux pigeons, ce temps-là ne reviendra plus. Prenez-en votre parti. C'est fini. Le temps des cerises ne reviendra plus. Et le temps des noyaux non plus. Inutile de gémir. Allez plutôt dormir.
Rockefeller, gonna set my feet on the sunny side of the street.
Vous venez d'entendre Le Temps des Noyaux de Jacques Prévert. Ça a été le premier titre qui avait été donné à La Dérobade de Jeanne Cordelier, dont nous avons entendu un extrait aujourd'hui. Vous avez pu découvrir Les Chiennes Savantes de Virginie Despentes et vous avez pu découvrir Le Noir est une couleur de Griselidis Réal, qui a été lu magnifiquement aujourd'hui par Myriam. C'était Norma qui vous a présenté La Bibliothèque est en feu numéro 2. On était dans les bordels et la semaine prochaine, on ira se tenir la main entre camarades. J'ai encore dit la semaine prochaine, mais ce sera le mois prochain.